Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme Munoz, maréchadi et membre de la Confédération Paysanne, qui est venu à la radio dire son sentiment sur la loi sur les certificats d'obtention végétale votée le 28 novembre par le Parlement. Et si l'agriculture est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est en grande partie parce que depuis des millénaires, les paysans ont reproduit des semences qu'ils prélevaient chaque année sur leurs récoltes. Cette pratique encore d'actualité d'aujourd'hui, qui a garanti jusqu'ici la sécurité alimentaire, semble être remise en cause par cette loi votée dernièrement. Elle obligera les paysans à repasser à la caisse pour pouvoir ressemer leurs champs. En effet, le 28 novembre dernier, les députés ont voté cette proposition de loi qui, si elle autorise les paysans à faire leurs semences à la ferme, les oblige aussi à rémunérer le semencier. C'est la loi sur les certificats d'obtention végétale ou COV. Mais les paysans ne l'entendent pas de cette oreille car selon eux, cette loi va à l'encontre du droit inaliénable de multiplier ses semences à la ferme, de ressemer et de cultiver librement la terre. Bonjour Jérôme.
Bonjour Louis.
Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qu'un COV, un certificat d'obtention végétale ?
Alors, avant d'arriver à la définition, je vais faire un petit point historique, hein, mais assez bref parce que c'est quand même assez long. Dans les années 40, on a vu en France et en Europe par la suite la naissance d'un catalogue officiel qui référence les variétés qui sont d'origine agricole, à but agricole, et par la suite est arrivé le catalogue dit amateur. Donc toutes les variétés qui étaient tombées en désuétude pour la culture commerciale sont passées sous la page amateur. Suite à ça, on a commencé donc un référencement et par la suite, la filière semences s'est organisée. Et dans les années 60 et plus précisément en 1961, il y a eu donc la signature d'une convention que l'on appelle UPOV, qui est l'Union pour la protection des obtentions végétales. De cette convention en découle ce qu'on appelle, et on connaît tous, le droit de propriété intellectuelle qui, pour le champ des semences, a établi ce qu'on appelle le COV, qui veut dire certificat d'obtention végétale. Donc un certificat d'obtention végétale, il certifie que la semence produite par un semencier répond à certains critères, et pour les plus importants, c'est ce qu'on appelle DHS, qui veut dire distinction, homogénéité, stabilité. Ça veut dire que le certificat dit que la variété qui est inscrite et qui est présentée là, par le biais de ce certificat, est distincte, donc bien identifiable, homogène parce que les plantes sont toutes d'un même calibre avec des rendements et une production homogène, et stable, stable dans le temps, c'est-à-dire qu'elle évolue peu. Et la particularité de ce certificat, contrairement au brevet, il protège les variétés, mais il autorise malgré tout n'importe qui de pouvoir s'en servir pour sélectionner une autre variété à partir du moment où il rémunère l'obtenteur. Voilà, donc en 1991, cette convention UPOV a été revue et a été transposée en droit européen. Et là, en droit européen, le COV s'appelle le PCOV, ce qui veut dire protection communautaire des obtentions végétales. Et lui, pareil, il protège l'obtenteur, mais autorise l'utilisation de la variété pour en obtenir une autre sous condition de rémunérer l'obtenteur. Avec ce certificat-là, on autorise la semence de ferme et toutes les variétés qui n'ont pas de certificat sont interdites.
Pour des pratiques commerciales, hein ?
Oui, pour des pratiques commerciales.
D'accord.
Mais la difficulté, quand je parle de rémunérer l'obtenteur, réside chez l'obtenteur de prouver que la semence qui a été utilisée pour obtenir une variété lui appartient. Donc, du coup, il a été mis en place, et notamment sur le blé, jusqu'au 28 novembre dernier, il y avait donc un certificat d'obtention végétale sur le blé et une mesure de prélèvement d'une part sur le produit récolté qui allait rémunérer l'obtenteur et qui s'appelle donc la contribution volontaire obligatoire, la CVO, qui est récoltée par le biais des organismes stockeurs. Et jusqu'à là, c'était que sur le blé. Aujourd'hui, la loi a élargi le champ aux 21 autres espèces agricoles qui sont commercialisées. Donc voilà grosso modo ce qu'est un certificat d'obtention végétale. C'est quelque chose qui garantit une juste rémunération à l'obtenteur dans les fins de financer la recherche. Et ça, c'est tout à fait acceptable.
Mais alors dans ce cas, pourquoi la loi sur les COV a-t-elle du mal à être acceptée par une très grande majorité d'agriculteurs alors ?
Ben voilà, c'est là après où justement c'est intéressant d'en parler, c'est que la loi, si elle organise l'autorisation de la production de semences de ferme, elle généralise le paiement de la taxe prélevée sur les récoltes sur toutes les variétés. Hein, c'est ce que j'ai nommé tout à l'heure la CVO. Aujourd'hui, c'est sur toutes les variétés. Mais il faut savoir que dans le champ agricole aujourd'hui, les agriculteurs ne sèment pas que des variétés qui sont régies par un certificat d'obtention végétale. Il y a ce que l'on appelle, et c'est issu du travail des paysans depuis des millénaires, c'est ce qu'on appelle la semence paysanne, qui sont des anciennes variétés on dit anciennes, mais qui ne sont pas si anciennes que ça, mais bon, et qui n'ont aucun certificat. Et il y a beaucoup de blé, notamment, qui sont dans ce cas-là, entre autres. Donc, les paysans qui récoltent un produit issu de ces semences paysannes-là et qui livrent en coopérative vont payer la CVO pour rémunérer l'obtenteur. Or, l'obtenteur ne détient aucun droit sur ces variétés-là. Il y a un autre cas qui amène à discuter là-dessus, c'est que par rapport à ces semences paysannes, si un semencier prend une de ces variétés pour la multiplier, faire un croisement pour obtenir une nouvelle variété, à la base, il aura pris dans le patrimoine commun une variété dont il n'avait aucune propriété ou possibilité de revendiquer une propriété, il obtient une nouvelle variété et il fait valider un certificat d'obtention végétale et derrière, en retour, à partir d'une base qui était donc propre à tous, il va s'approprier une rémunération. Ce que l'on conteste en fin de compte, c'est que la loi qui est passée le 28 novembre généralise une taxe supplémentaire sur une profession qui est déjà bien mise à mal de par le marché mondial qui s'est ouvert et qui voit les denrées agricoles à la production très très mal payées, voire sous-payées par rapport au prix de revient. Donc du coup, c'est assez discutable et là où aussi on pointe du doigt les décideurs qui ont voté cette loi, c'est que de par le fait des semences paysannes que j'ai expliqué, la loi organise ce que l'on appelle la biopiraterie, c'est-à-dire s'approprier du patrimoine commun pour en faire un patrimoine privé. Et là où il y a encore discussion en la matière, c'est que la CVO qui est réclamée aux producteurs qui livrent des céréales en coopérative s'assimile à une taxe parafiscale. Parce qu'en fait, la production, elle sort du domaine privé. Le produit de la taxe est destiné à des entreprises privées, mais elle charge dans la loi l'État d'organiser la récolte de cette taxe. Il y a là, au niveau légalité, matière à discuter là-dessus.
D'accord, on comprend les arguments des paysans, mais les semenciers, eux, vendent les bienfaits de cette loi en disant qu'elle protégera l'innovation variétale pour le bien des agriculteurs. Qu'as-tu à répondre à cela ?
Moi, je dirais que c'est faux. Faux parce que le bien des agriculteurs ne sera pas du tout protégé, puisqu'en fait, vouloir généraliser un paiement sur des variétés qui sont obtenues par les semenciers, d'accord, là, il y a une part à rémunérer. Mais il faut savoir qu'à la base, lorsque l'agriculteur achète la semence, dans le prix, il y a déjà une part pour rémunérer le travail, l'effort de recherche que fait le semencier. Ensuite, dire que va protéger l'innovation variétale pour le bien des agriculteurs, je vais remettre encore en balance les semences paysannes. Les semences paysannes sont des semences qui sont reproductibles. Aujourd'hui, les semenciers, ils élaborent des variétés qui sont capables d'avoir des performances en termes de rendement qui, jusqu'à ce jour, étaient reconnaissables, mais deviennent contestables, c'est-à-dire qu'on est arrivé à des rendements maximum, voire dans les dernières variétés qui sont arrivées, à des rendements inférieurs à ce que l'on pouvait connaître avec des variétés des années précédentes.
Il y a peut-être une question d'érosion des sols aussi qui est...
Il y a ça, mais il faut savoir que lorsqu'un semencier élabore une nouvelle variété, il cible quelques intérêts à cette nouvelle variété, c'est-à-dire résistance à des maladies, un port pas trop élevé pour éviter justement la faiblesse du végétal, le rendement, l'aspect... Or, dans la nature, ces choses-là existent, mais en complémentarité avec bon nombre d'autres. C'est ce qu'on appelle la diversité. Et la diversité des gènes dans un être, plus il y a de diversité et plus on a de chances d'avoir à l'intérieur de cette diversité-là les armes pour soit combattre une agression, soit aller vers un résultat meilleur. Soi-disant, l'innovation variétale faite par les semenciers est faite pour le bien des agriculteurs. Là où je dis que c'est faux, c'est que par rapport au patrimoine génétique qui fait partie intégrante de ces nouvelles variétés, en fait, il est affaibli. Et ça donne quoi ? Ça donne des plantes qui sont plus sensibles aux aléas du climat, aux attaques parasitaires, aux maladies, et donc bien souvent, on pousse l'agriculteur à avoir recours à des subterfuges tels que les engrais, les pesticides, les insecticides, fongicides et autres. Voilà. Or, avec les semences paysannes, et là, c'est là où l'intérêt de la sélection dans le champ est importante. Et moi, je suis un exemple en la matière puisque je fais beaucoup de mes semences. On arrive à avoir des effets contraires, c'est-à-dire à réduire tout ce qui est intrants. Et notamment, en ce moment, avec les fortes périodes de sécheresse que l'on connaît, on a des variétés qui résistent et qui acquièrent, par force de multiplication dans le champ, les capacités à résister.
Donc on peut dire que malgré les arguments des semenciers, l'obligation de devoir racheter chaque année la semence pour cultiver peut collaborer à l'érosion de la diversité cultivée.
Oui, tout à fait. Et ça, je vais citer juste un exemple qui est ressorti en 2005 ou 2006 lorsque la France a ratifié un traité qui s'appelle le TIRPA, qui est le traité international pour la protection des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, où la FAO, qui est en anglais, ça veut dire... Farm Alimentation Organization, qui est en fait l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a donc fait une étude et a constaté qu'entre 1900 et 2000, 75% des variétés cultivées ont disparu. Donc lorsque une organisation qui est reconnue au niveau mondial nous atteste que 75%, les trois quarts de ce que l'on cultivait entre le début du XXe siècle et maintenant le début du XXIe a disparu, comment peut-on croire et adhérer à l'idée des semenciers de dire qu'ils protègent l'agriculteur et la diversité cultivée ? C'est complètement erroné de dire ça. Et donc, on ne peut pas adhérer à ce genre de choses.
C'est sûr, Jérôme. On voit effectivement tous les jours que le modèle capitaliste a oublié quelques variables pour mériter d'être qualifié d'efficace, et en particulier le coût environnemental et le bien-être des êtres humains. Peut-être la solution pourrait venir du dialogue, encore et toujours. C'est en tout cas ce que suggère Words Can Save Us, les mots peuvent nous sauver, du groupe Chumbawamba.
April morning, summer comes soon, clouds follow after. Morning sun is hidden by noon, day shrouded over. Tears to face the morning news, we watch our future burn and wonder if we'll ever learn that words can save us. War in broken promised land, fame, fear and gunfire. Cowboy culture, blood on its hands, flag, fuel and empire. Bid parts for shooting stars above the dying trees. No one looking up to see how words can save us. Number one, favorite son, one more outsider. Army drops its cluster bombs, boy sees his future. World, are you listening now? This fool just had his day. Who'll be brave enough to say that words can save us? World, are you listening now? This fool just had his day. Who'll be brave enough to say that words can save us?
Vous écoutez encore Erdiwa sur 107.5 FM et vous écoutez une émission sur les certificats d'obtention végétale avec Jérôme Munoz. Donc Jérôme, qu'est-ce qui a motivé cette loi à part de protéger le travail des semenciers? C'est juste des intérêts financiers?
Disons, ce qui motive, alors, de la part des semenciers et de certains syndicats agricoles, il est de dire, par rapport à la réglementation européenne, sur notre sol français, il nous fallait nous mettre en conformité avec ça. C'est-à-dire que avant le 28 novembre, et ça c'est une réalité, hormis le blé sur lequel il y avait une contribution volontaire obligatoire d'installer donc une CVO, seule cette espèce-là était autorisée à faire la semence de ferme. Ce qui a motivé les semenciers, c'est-à-dire c'est mettons-nous en conformité et au contraire, grâce à cette loi, on peut autoriser la semence de ferme. Or, il s'avère que derrière, la stratégie, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'en mettant en avant l'autorisation à multiplier la semence de ferme, les semenciers, avec le concours de l'État, s'octroient le droit de réclamer des royalties sur toutes les récoltes qui vont être produites en France. Et ce, quelle que soit l'origine de la semence. Et donc ça, c'est pour 21 espèces. En tête, il y a le blé, l'orge, le trèfle, la luzerne, les pois, le maïs. J'ai pas la liste en tête exactement. Pour ça, c'est autorisé. Et pour tout le reste, ça reste interdit. C'est-à-dire qu'on a, nous, en tant qu'agriculteurs, une marge de manœuvre peu importante si on veut s'en référer ou s'en tenir à la stricte légalité des choses.
Je ne suis pas un expert en politique, etc., mais il semblerait qu'il y ait quand même, encore une fois, des intérêts financiers qui vont à l'encontre de droits fondamentaux qu'on a. C'est-à-dire, effectivement, pour l'agriculteur, réutiliser ses semences, ou un peu plus généralement, on voit aussi dans les OGM, ou alors certaines substances dans des plantes tropicales qui sont accaparées par des laboratoires qui disent « ça y est, ça nous appartient ». Moi, je trouve que c'est choquant, en fait.
Et c'est humain comme réaction. Seulement, de la part de ces personnes-là, qui sont pour la plupart bien souvent parties prenantes directement dans des multinationales, c'est même plus des entreprises, c'est des multinationales qui ont des intérêts économiques à l'intérieur. Et en fait, on est en train, là, avec le végétal, de calquer la reconnaissance, la propriété. C'est là la notion de propriété intellectuelle est importante. et on va vers un modèle de brevetabilité. Et on n'a pas de gêne dans le monde capitalistique d'aujourd'hui de breveter du vivant. C'est-à-dire qu'une plante tropicale, je peux pas citer un nom parce que j'en ai pas comme ça dans la tête, mais pour laquelle un laboratoire sera allé l'accueillir dans la jungle, l'aura analysé en laboratoire, en aura extrait un petit bout qui dit « Ah bah tiens, là-dedans, il y a tel élément qui est essentiel pour tel bienfait de la santé publique ou autre, pour obtenir tel médicament ou je ne sais quoi. » Paf, on met un brevet, c'est à moi. Et en fait, on spolie le droit des personnes chez qui on est allé le chercher. C'est-à-dire que si on va dans la jungle, eh bien, ça appartient à la fois à personne et à tout le monde. C'est un bien communautaire. Et là, la dérive, elle est dangereuse. Et les OGM font partie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se bat contre ça, les OGM font partie de cette technique-là. Nous, derrière, ce que l'on dénonce par rapport à ça, c'est cette espèce de fuite en avant de toujours déterminer qui, alors, soit d'un côté, là, quand il y a un problème, qui est responsable, soit d'un autre côté, à qui appartient ceci. Et en fait, certaines grosses multinationales n'ont aucun scrupule à s'approprier des choses qui, de facto, ne sont à personne et certainement pas à eux, juste pour pouvoir détenir encore plus les tenants et les aboutissants de toute une chaîne. Et là, c'est l'alimentation. On parle de notre assiette. Hein. Là, ça concerne vraiment tout le monde. Quoi.
Les forces en présence sont un peu claires. Il y a d'un côté les semenciers des tenants du système capitaliste, assistés par une partie des syndicats. Et puis de l'autre côté, il y a donc la Confédération paysanne, vraisemblablement d'autres forces en présence. Je ne les connais pas tous. Est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse infléchir cette voie vers justement la brevetabilité de toutes les matières possibles et imaginables ?
Ah bah, en tous les cas, moi j'y crois dur comme fer. Et j'y crois à partir du moment où on arrivera... toutes les structures réunies, que ce soit syndicales, associations environnementalistes ou même humanitaires ou actions solidaires, actions sociales, des choses comme ça, à partir du moment où on arrive à expliquer et à bien faire passer le message dans la société dans son ensemble et faire que le commun des mortels s'approprie ces choses-là et puisse comprendre les enjeux qui tournent autour pour infléchir sur le monde politique, parce que c'est quand même eux qui nous représentent et qui prennent les décisions. Ils ont une délégation de pouvoir de la part du peuple. Donc ce qui est important, c'est de faire prendre conscience au peuple des véritables enjeux qu'il y a derrière et de lever aussi certains voiles qui sont volontairement mis en face pour cacher véritablement le véritable tableau, en fait. C'est par exemple l'exemple des OGM. L'argument qui revient en disant « Oui, mais des OGM, on fait des médicaments avec », ça, c'est un argument qui est totalement bidon. Parce que oui, on fait, avec la technique OGM, on obtient un médicament, mais en aucun cas, le mutant, l'OGM, en lui-même, n'est pas dans le médicament. C'est le produit issu de la technologie. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à dire, à redire. Et donc, c'est important pour nous de faire de l'information dans ce sens-là.
Et vous n'allez pas lâcher le morceau. Qu'est-ce que vous avez comme action prévue dans le futur ? Ça commence à se mettre en place, des manifestations ou des actions pour justement ou informer ou même lutter contre ce genre de loi qui nous dépossède de notre bien commun ?
Par rapport à la loi sur le certificat d'obtention végétale, comme pour toute loi, à partir du moment où elle est votée, avant qu'elle puisse être appliquée, il faut qu'il y ait les décrets d'application qui sortent. À ce jour, ils n'y sont pas encore. Il va falloir que les personnes concernées se réunissent, discutent et voilà. Sauf que là, il ne va pas y avoir vraiment un débat démocratique. Hein. C'est la profession en interne qui va décider de l'issue. Voilà. Donc, ça veut dire que pour nous, qui contestons cette loi, qui nous la trouvons illégitime, eh bien, on a déjà ce moyen-là d'actionner les leviers auprès des politiques et d'essayer de faire passer le message et faire, malheureusement, c'est un mot qui est devenu courant, hein, qui était un gros mot il n'y a pas si longtemps, faire du lobbying, tout simplement, nous en tant qu'organisation. Ensuite, d'organiser, de faire de l'information, comme je le fais là aujourd'hui à travers la radio, à travers les médias. Faire de l'information sur le terrain en invitant des personnalités qui sont aptes à expliquer de façon technique, mais en même temps vulgariser pour qu'elles soient comprises par tous, d'organiser des rencontres, des conférences, des journées débats, des conférences dirigées uniquement dans un sens ou alors des débats contradictoires. Ça aussi, ça peut être... Malheureusement, ça, on en a peu. Hein. En général, nos détracteurs refusent assez catégoriquement. Et puis, il y a, il faut pas se cacher, hein, il y a une échéance importante au mois de mai l'année prochaine. Là, on a aussi un terrain qui peut sembler miné de prime abord, sur lequel il faut qu'on s'engage fortement pour essayer de faire infléchir et faire entendre nos droits qui sont des droits fondamentaux. tôt. Parce que si nous, en tant qu'agriculteurs, demain, on n'a pas le choix en termes de semences pour mettre en culture l'alimentation, ça veut dire qu'on va jusqu'au bout de la chaîne et on implique tous les consommateurs. Et donc, on va obliger les consommateurs à ne pas pouvoir choisir ce qu'ils voudront consommer. Donc, c'est quand même assez...
Grave, tu peux le dire Jérôme. Et d'ailleurs, je t'invite à continuer à nous mettre au courant au cas où d'aventure il y aurait des évolutions sur ce sujet.
Ben, ce sera avec plaisir, sans souci, je me prêterai au jeu volontiers.
Très bien. Eh bien, Jérôme, merci d'être venu.
Ben,
et
merci
pour tes éclaircissements aussi, parce que c'est un sujet qui est quand même compliqué.
Oui.
On aurait pu le traiter tout seul à la radio, mais on n'aurait pas eu toutes les connaissances précises que tu as sur le sujet, que tu as pris le temps de fouiller un petit peu quand même.
Oui, oui.
Merci Jérôme.
Oui, merci.
À bientôt.
À vous.
Au revoir.
Au revoir.